Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 27 novembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Guinée-Bissau, Domingo Simoes Pereira et Oumarou Sissoko Embalo s'affronteront au second tour de la présidentielle. Le Bénin demande à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire. En RDC, au moins 14 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF près de Beni. Les Namibiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections générales. Une puissante tempête hivernale frappe le nord-est des États-Unis. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée-Bissau, les deux anciens premiers ministres Domingo Simoes Pereira et Oumarou Sissoko Embalo s'affronteront au second tour de la présidentielle le 29 décembre. Le président sortant José Mario Vaz est éliminé de la course. Abdourahmane Dia.
Selon les résultats de la Commission nationale électorale, Domingo Simoes Pereira, chef du gouvernement en 2014-2015, est largement en tête avec 40,13% des voix. Il est suivi de Oumarou Sissoko Embalo, premier ministre entre 2016 et 2018, qui a obtenu 27,67% des suffrages. Ce sont deux produits du système qui sont donc appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz. M. Pereira est le candidat du PAIGC, parti historique et majoritaire au Parlement, alors que M. Embalo est allé aux élections sous les couleurs du MADEM, une dissidence du PAIGC. Le président Vaz est à couteau tiré avec M. Pereira, qui l'avait limogé en 2015 de son poste de premier ministre. Les observateurs étrangers et nationaux ont jugé le scrutin crédible, malgré des accusations de bourrage des urnes proférées par le camp du président sortant. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État, 16 tentatives et une valse de premier ministre.
Le gouvernement béninois a donné jusqu'au 1er décembre à l'ambassadeur de la mission de l'Union européenne, Oliver Nett, pour quitter le pays. L'accusant d'ingérence dans les affaires intérieures indique des sources diplomatiques. Il ne respecte pas le droit de réserve du diplomate, a justifié une source diplomatique béninoise, soulignant qu'il avait jusqu'au 1er décembre pour partir du Bénin. La France se prépare à rendre un hommage national à ses 13 militaires tués accidentellement lundi soir lors d'une opération contre les djihadistes au Mali. La ministre des Armées, Florence Parly, doit se rendre sur la base de Gao avec le chef d'état-major François Lecointre pour s'incliner devant les cercueils avant le retour des corps en France. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué aux rebelles ADF près de Beni. Éric Manirakiza.
L'administrateur du territoire de Beni, Donaki Bwana, déclare qu'il y a 14 corps à la morgue de l'hôpital d'Oicha, au nord de Beni. Toutes les autres sources, dont la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, donnent le même bilan de 14 morts. Depuis le 5 novembre, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, indique que 80 civils ont perdu la vie. Les auteurs de ces tueries, dans l'immense majorité des cas des membres du groupe d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF, la région de Beni est agitée depuis une semaine par des manifestations anti-ONU qui ont fait au moins 6 morts depuis lundi. Les manifestants reprochent aux casquets bleus d'assister passivement au massacre des civils. L'armée congolaise a lancé le 30 octobre des offensives militaires contre les rebelles ADF dans la région de Beni, suivies lundi d'opérations conjointes avec les casquets bleus de la MONUSCO dans la région.
Par ailleurs, la MONUSCO en RDC a annoncé une enquête sur la mort d'un manifestant tué lors d'un face-à-face avec les casques bleus mardi à Beni. Selon nos informations, un jeune homme s'apprêtait à lancer un cocktail Molotov et un des casques bleus a apparemment tiré sur lui, a déclaré le porte-parole intérimaire de la MONUSCO à Kinshasa, Mathias Gilman. La chef de la mission onusienne, Leila Zerougui, a exprimé sa vive émotion après la mort du jeune homme. En Namibie, près d'1,5 million d'électeurs ont voté pour départager les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Yacouba Ouédraogo.
Laisser les Namibiens sortir et exercer pacifiquement leurs droits démocratiques, a déclaré le président sortant Hage Geingob de la SWAPO, candidat à sa propre succession. Parmi ses 10 concurrents, Marc-Henri Venani, du mouvement démocratique populaire, à qui l'électorat reproche sa proximité passée avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. La menace potentielle pour le régime vient de la candidature indépendante d'un ancien membre de la SWAPO, Panduleni Itula, qui accuse le président sortant d'avoir bradé les richesses du pays. Wikileaks a publié des documents qui affirment que des responsables du gouvernement ont touché 10 millions de dollars de pots de vin de la part d'une entreprise de pêche islandaise. Deux ministres ont été contraints de démissionner. Le chef de l'État a nié toute implication. Malgré ses richesses naturelles, dont l'uranium, les diamants et les fonds marins riches en poissons, la Namibie est plongée dans la récession. Une sécheresse persistante et le chômage frappent un tiers de sa population.
La compagnie libyenne nationale de pétrole a annoncé l'arrêt de la production d'un champ pétrolier du sud-ouest en raison de combats. Des groupes armés ont attaqué dans la matinée le champ d'Elfil, ont indiqué les forces loyales au maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen en conflit avec le gouvernement d'union nationale. Ces forces ont précisé avoir répliqué avec des raids aériens. À Madagascar, 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur maire dans 119 districts. L'enjeu principal des élections municipales est de savoir si le camp du président Andra Duel parviendra à prendre la capitale Antananarivo, actuellement dirigée par Lalao Ravalomanan, l'épouse de son rival historique Marc Ravalomanan. Andra Duel a été maire d'Antananarivo avant la crise de 2009.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, deux tempêtes de neige couvrant des régions entières bloquent les routes et les aéroports. Cela perturbe le voyage de millions d'Américains se déplaçant pour les fêtes de Thanksgiving. Claire Morin-Gibourg.
Une des régions les plus touchées est la région des Twin Cities du Minnesota qui subit la tempête de plein fouet. Les chutes de neige à Minneapolis ont atteint 20 cm ce matin et pourraient doubler selon les météorologues. La tempête, accompagnée de vents violents, se déplace vers l'est, dans le Michigan, l'État de New York et le Maine. De l'autre côté du pays, une seconde tempête a touché l'Oregon et le nord de la Californie, où des chutes de neige d'1,20 m ont été enregistrés. Plus au sud, des inondations menacent de San Diego à Los Angeles. Seul avantage, ces pluies devraient venir à bout des incendies dans le comté de Santa Barbara. Ces problèmes météorologiques surviennent lorsque près de 55 millions d'Américains ont prévu de se déplacer pour les fêtes de Thanksgiving, la plus importante fête traditionnelle aux États-Unis.
Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a affirmé que son pays avait mis en échec un complot très dangereux après les manifestations violentes de mi-novembre déclenchées par une hausse du prix de l'essence. Les autorités iraniennes accusent principalement les États-Unis et Israël d'avoir été à l'origine des troubles déclenchés le 15 octobre. Elles ont affirmé avoir rétabli l'ordre au bout de quelques jours. Deux manifestants ont été tués à Bagdad lors d'une bataille rangée entre policiers et protestataires, tandis que le sud de l'Irak est pris dans la fumée noire des pneus brûlés qui bloquent routes et administrations. Depuis le 1er octobre, les Irakiens manifestent contre les dirigeants qu'ils jugent corrompus et incompétents. L'OTAN, cible de critiques de la part du président français Emmanuel Macron, et l'Union européenne sont complémentaires et non rivales, a soutenu la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'OTAN est certainement la plus forte alliance militaire dans le monde et l'Union européenne ne sera jamais une alliance militaire, a déclaré l'ancienne ministre allemande de la Défense. Après avoir obtenu l'investiture du Parlement européen à Strasbourg, dernier obstacle à franchir pour entrer en fonction le 1er décembre. Quatre migrants sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne dans un canot pneumatique et plus d'une douzaine sont portés et disparus, indiquent ce mercredi des gardes-côtes espagnols qui ont sauvé hier 58 personnes de la noyade, dont 3 enfants, sur la mer d'Alboran à 50 km de Melilla. Le président international de Médecins sans frontières a demandé à Athènes d'évacuer d'urgence les migrants vulnérables qui se trouvent dans les camps surpeuplés des îles grecques. Christos Christou a dénoncé lors d'une conférence de presse à Bruxelles des conditions comparables à celles observées dans des zones de guerre ou de catastrophes naturelles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique présentée par Nani Talani.
Le gouvernement de Brazzaville a inauguré l'usine de traitement de polymétaux de Soremi en Fouati dans le département de la Bouenza. Elle a une capacité annuelle de production de 20 000 tonnes de cuivre, de zinc et de plomb qui seront exportées via le port de Pointe-Noire. Le coût d'investissement est évalué à près de 150 milliards de francs CFA. D'autres minerais devraient être extraits dans les mois à venir après des travaux de recherche géologique en cours. Le ministère burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines a suspendu les activités d'achat et de vente de l'or par les comptoirs privés au profit de la banque centrale. Cette mesure servirait à combattre la fraude dans le commerce de l'or. Cependant, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi dénonce cette décision comme contre-productive qui risque de pousser les comptoirs d'origine étrangère à plier bagages. Pour terminer, le Gabon a lancé le programme intégré pour l'alimentation en eau potable pour réduire les pénuries d'eau à Libreville. Il devrait porter le taux de rendement du réseau de distribution d'eau de 52% à 80%, ce qui permettra à 400 000 ménages de plus d'avoir accès à l'eau potable. D'un coût de 77 milliards de francs CFA, le projet sera financé à hauteur de 49,5 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Les travaux, qui démarrent au mois de mars 2020, devraient s'achever en juin 2023.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le tournoi de l'Africa Basketball League a livré ses premiers résultats à Yaoundé.
Oui, la division ouest de l'élite 16 de l'Africa Basketball League 2020 se produit depuis hier dans la capitale camerounaise dans le cadre du second tour de la compétition. En première rencontre, Nigelec du Niger n'a pas vraiment fait le poids devant JSP d'Algérie, vainqueur 115 à 89. Gros duel entre Manga et BC Mazembe. Victoire à l'arrivée des Gabonais 98 à 70 devant les Congolais. Le public de Yaoundé reparti déçu du Palais des Sports. Fab Club, hôte de ce second tour dans la division Ouest, s'est incliné 92 à 95 devant Al Nasser de Libye. Les matchs se poursuivent ce mercredi au programme Manga ABC, Al Nasser AS Nigelec, AS Police BC Mazembe et JSP Fab.
Double 6 pour les Clippers et les Nuggets en NBA.
Oui, les Los Angeles Clippers, 3e de la conférence Ouest, et les Denver Nuggets ont signé leur 6e victoire d'affilée. Les Clippers ont construit leur victoire autour de Kawhi Leonard et Paul George qui ont joué ensemble pour la 4e fois seulement cette saison. Leonard a inscrit 28 points et pris 9 rebonds tandis que George a totalisé 26 points et 6 interceptions pour une victoire à l'arrivée 114 à 99 face à Dallas. À Denver, les Nuggets, dauphins des Los Angeles Lakers et défaits à 3 reprises cette saison, ont pris sans problème la mesure des Washington Wizards battus 117 à 104.
Ligue des champions ce soir.
Oui, Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita reçoit Naples à Anfield avec une revanche à prendre sur le Napoli, victorieux de la manche aller 2-0 début septembre. En cas de succès, le champion d'Europe en titre ferait coup double. Qualification et première place du groupe E assurée. Autre équipe proche du but, le FC Barcelone peut aussi assurer sa présence au prochain tour en cas de victoire face à Dortmund. Pour conserver l'espoir d'une qualification, eh bien l'Inter Milan doit s'imposer en République tchèque face au Slavia Prague. Déjà éliminée, Lille reçoit l'Ajax pour relever la tête après 3 défaites et 1 match nul.
João Félix a reçu le prix Golden Boy.
Oui, l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid a reçu le prix Golden Boy décerné par le quotidien sportif italien Tutto Sport au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. João Félix a devancé l'anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund et l'anglais Kai Havertz du Bayer Leverkusen. Le Portugais succède ainsi au palmarès au défenseur néerlandais Matthijs de Ligt. João Félix, qui vient d'avoir 20 ans, a été transféré cet été du Benfica à l'Atlético pour un montant colossal de 120 millions d'euros.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. On débute par un sujet social avec la dot, qui est une tradition très répandue sur le continent africain. Les critiques estiment que c'est une pratique qui dégrade les femmes en les rabaissant à de simples valeurs marchandes. Au Nigeria, par exemple, les sommes demandées sont tellement élevées qu'une affaire récente s'est soldée par un suicide. Mais les partisans de cette pratique la considèrent comme un symbole culturel et religieux. Un reportage de Chika Odua à Yola, le récit de Michel Joseph.
Sadatou Ahmed Manga colore ses pieds et ses mains avec du henné. Elle doit se marier bientôt. C'est la coutume dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Ici, la tradition en matière de mariage, c'est d'abord la dot, la somme que le fiancé verse à la famille de la future mariée.
Dans l'islam, la dot doit être payée avant le mariage. Elle existe depuis l'époque du prophète Mahomet, paix soit sur lui, et nous continuons la pratique.
De plus en plus de Nigérians condamnent cette pratique jugée dégradante envers les femmes, faisant d'elles de simples objets à vendre. Les femmes s'apprêtant à se marier ne participent même pas à la détermination du montant de la dot. Celle-ci négociée entre les parents masculins du futur couple. En octobre, une jeune fille âgée de 17 ans s'est immolée parce que son petit ami ne pouvait trouver la dot, fixée à moins de 50 dollars. Fiabina Penyoel est une marraine.
Tout au début, cette question de la dot était comme une plaisanterie entre le futur mari et sa belle famille. Dans la plupart des cultures, c'était une petite chose dont le monde pouvait s'acquitter. Avec le temps, c'est devenu si coûteux que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. C'est un sujet de préoccupation. C'est donc comme si on utilisait la dot pour classer les gens par rang social.
Agatha Okata, spécialiste de la littérature africaine à l'Université américaine du Nigeria, attribue la critique de la dot à l'idéologie féministe radicale.
Le monde occidental subit un choc culturel, car ce n'est pas dans sa culture. Il se penche sur la dot et se demande « Pourquoi devez-vous acheter une femme ?» Le concept de dot en soi n'achète pas quelqu'un, c'est juste un symbole d'amour.
Payer la dot est différent d'apporter une dot, qui est un bien ou une richesse transférée de la famille de la mariée à l'époux ou à sa famille. Pour la majorité des Nigérians, payer la dot, c'est souligner la valeur d'une femme, dit Yola.
Je pense que c'est juste. Je pense que c'est la seule façon d'amener une femme à apprécier l'amour que tu as, de montrer à quel point tu l'aimes.
Et pour la plupart des familles nigérianes, toutes religions confondues, le mariage n'est valable et célébré que lorsque la dot a été payée. Comme quoi, les traditions ont la peau dure.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, nous évoquons la tradition de la dot. Est-ce que la dot existe toujours dans votre société? Comment cela se passe-t-il? Combien un homme doit-il apporter avant de se marier? Que pensez-vous de cette tradition de payer une dot avant de pouvoir se marier? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h temps universel sur VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Les Camerounais suivent avec un certain intérêt l'ouverture aux États-Unis d'une procédure en vue d'une mise en accusation pour une éventuelle destitution du président Donald Trump. Les médias locaux relayent le déroulé de cette affaire. L'opinion publique s'intéresse à la manière dont le système politique américain conduit cette affaire, mais aussi à la personnalité du président Trump, qui est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien le 25 juillet dernier d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, potentiel challenger de la présidentielle de 2020. Voici un reportage de Emmanuel Julentap.
Le lieutenant-colonel Alexander Weidman, membre du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, qui témoigne contre l'actuel locataire de la Maison-Blanche, l'image a marqué quelques Camerounais dans le cadre des enquêtes en cours pour une éventuelle destitution de Donald Trump.
Je salue la force de la loi qui ne regarde pas que ici c'est un président, ici c'est un citoyen.
On ne peut que apprendre des États-Unis. C'est l'exemple type de la démocratie. Si les autres pays du monde pouvaient suivre ça, ne pas toujours attendre les élections pour chasser les dirigeants qui ont failli.
Le sujet Trump s'est imposé dans les salles de rédaction du pays. Faustin Dikam est directeur de publication du Tribune d'Afrique. Il pense que les accusations portées jusqu'ici contre le président Trump ne surprennent guère au regard du parcours de ce dernier.
Donald Trump, un homme d'affaires très puissant qui est arrivé en politique. Lorsqu'on met les deux ensemble, on se rend bien compte qu'il ne peut pas avoir travaillé dans ces deux conditions sans avoir des petits amis, entre guillemets, au niveau des services de renseignement. Mais en politique, il faut savoir que nous sommes généralement sur un terrain totalement impitoyable.
Spécialiste des questions internationales, le journaliste Sismondi Barlef Bitioka entrevoit plutôt dans la procédure actuelle l'éternelle bataille préélectorale entre démocrates et républicains.
Le renseignement, tous ont toujours fait ça. C'est de bonne guerre. Sauf que pour Trump, à la dernière minute, c'est su. Et il était dans une guerre de renseignement, d'information avec ses concurrents démocrates. Ils ont voulu montrer à Trump que puisque tu utilises le renseignement, nous aussi on va utiliser. Mais de mon point de vue, je pense pas que ça puisse avoir de très grandes conséquences sur la fin de son mandat. Ça va quelque peu jouer là-dessus.
Au regard des relations entre le Cameroun et les États-Unis, marquées ces trois dernières années, par des critiques acerbes de Washington vis-à-vis de Yaoundé, notamment sur la situation en zone anglophone et les cas de violation des droits de l'homme, certains Camerounais trouvent désormais une réplique à Donald Trump, pris selon eux dans son propre piège de donneur de leçons.
Donald Trump décide de ce que, oh toi tu sors de la voie, tout le monde se tait. Voilà la grande Amérique qui donne des leçons de démocratie aux autres, mais qui n'est même pas en mesure d'appliquer les plus simples principes de la démocratie. Et ça c'est assez étonnant. Je suis toujours très déçu par les présidents qui ne réagissent pas vigoureusement quand de telles sorties se font.
On a l'habitude de dire chez nous en Afrique qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut se rassurer que soi-même on est propre. Donald Trump n'est pas si propre que ça.
Les autorités camerounaises se sont jusqu'ici abstenues de commenter la procédure en cours contre le président Donald Trump. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et ici à Washington, le président Donald Trump est donc confronté à une procédure en vue d'une mise en accusation pour son éventuelle destitution. L'enquête parlementaire en cours à la Chambre des représentants n'est que le début de ce qui est prescrit par la Constitution des États-Unis. Steve Reddish de La Voix de l'Amérique offre un aperçu historique. Le récit est d'Idriss Fall.
La mise en accusation est mentionnée 6 fois dans la Constitution américaine qui, cependant, ne précise pas comment elle doit être effectuée. L'article 1er de la Constitution donne à la Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès, l'unique pouvoir d'initier la procédure. La Chambre mène l'enquête, rédige ensuite des articles de mise en accusation. On vote à la simple majorité des 435 membres est nécessaire pour mettre en accusation un président. Cette mise en accusation ne signifie pas automatiquement destitution. Une fois que la Chambre l'approuve, le président est officiellement accusé et inculpé. Le dossier est alors transmis au Sénat. La Chambre haute tient un procès présidé par le président de la Cour suprême des États-Unis. Les voix des deux tiers des 100 sénateurs sont nécessaires pour décider la condamnation et la révocation d'un président. Suzanne Lowe Block de la Fac de droit de l'Université Georgetown, ici à Washington.
Destituer le président des États-Unis avant une élection est une chose radicale. La Constitution ne veut pas ça et ne veut pas que ça se produise souvent. Alors, ils ont placé la barre très haut. Les deux tiers, 67 sénateurs, et oui, ça doit se faire avec les deux parties.
L'article 2 de la Constitution américaine énonce les critères et la punition. Un président peut être destitué s'il est reconnu coupable de trahison, corruption et autres crimes et délits graves. 14 juges américains et un juge de la Cour suprême ont été mis en accusation. 9 ont été condamnés et limogés. 4 présidents américains ont fait l'objet d'une enquête parlementaire de la Chambre. 2 ont été mis en accusation et aucun n'a été condamné. Andrew Johnson a été mis en accusation en 1868 pour avoir limogé le secrétaire à la guerre sur les oppositions répétées du Sénat aux droits civiques des esclaves noirs qui venaient d'être affranchis. Plus de 100 ans plus tard, en 1974, Richard Nixon a démissionné avant un vote de mise en accusation après un cambriolage au siège du Parti démocrate et la dissimulation de ce crime. Bill Clinton a été de son côté mis en accusation en 1998 pour avoir menti sous serment au sujet d'une relation sexuelle avec la stagiaire Monica Lewinsky. Et maintenant, Donald Trump fait face à une enquête parlementaire de la Chambre dominée par les démocrates pour avoir demandé à un gouvernement étranger d'enquêter sur un potentiel rival politique. Les audiences publiques viennent de se terminer et un vote de mise en accusation devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Mais c'est le Sénat, dominé par les Républicains, qui aura toujours le dernier mot.
Les Américains célèbrent demain Thanksgiving, la fête d'action de grâce pour les bienfaits survenus dans leur vie au cours de l'année écoulée. C'est notamment l'occasion de partager une dinde rôtie en famille. Cependant, tout le monde n'en a pas les moyens. C'est pourquoi les banques alimentaires aident les plus démunis à célébrer dignement ce moment important dans la vie des Américains. Deborah Tate s'est rendue dans la plus grande banque alimentaire du nord de la Virginie, près de Washington. Le récit de Lionel Gaïma.
Joy Winslow s'est rendue à Food for Others, une ONG caritative de Fairfax, pour étirer un colis de nourriture en vue de la Thanksgiving. Cela permettra à sa famille de fêter la fête dans la joie, explique cette mère de 5 enfants.
J'essaie d'alléger la tâche pour mes enfants et moi et d'assurer un bon dîner de Thanksgiving pour notre famille. C'est une aide notable.
Le colis de nourriture contient la traditionnelle dinde farcie ainsi que des légumes et des desserts. Delmi Mendoza, originaire du Salvador, s'en réjouit.
Nous célébrons en famille. Nous attendions ce jour, le jour de Thanksgiving.
Des volontaires envoyés par leur employeur trient et emballent des produits alimentaires. Manish Naik travaille pour Sigma.
Je vis dans une communauté très riche, mais beaucoup de gens y sont encore dans le besoin. Avoir cette occasion de les aider est très important pour moi.
Chaque année, l'ONG Food for Others distribue environ 90 000 tonnes d'aide alimentaire, ce qui permet de nourrir quelques 50 000 personnes. Alison Paget est la directrice de Food for Others, chargée du développement.
Nous serions peinés de savoir que certains ne seront pas en mesure de célébrer la Thanksgiving. Aussi, être à même d'aider ces familles a une profonde signification pour nous.
Des compagnies privées fournissent les produits que distribue Food for Others. C'est le cas de la chaîne supermarché Wegmans. Dan Lisrani est responsable de zone dans la localité de Fairfax.
Cela a une grande importance pour moi que nous puissions, en tant que compagnie, nous associer à Food for Others pour fournir des repas chauds aux nécessiteux, leur faire sentir qu'eux aussi peuvent célébrer la fête comme les plus nantis de la société.
Comme les années précédentes, des millions d'Américains voyagent pour passer la Thanksgiving en famille, ce qui crée d'énormes bouchons sur les routes, aux gares et aux aéroports.
C'est la fin de cette édition. À la production, c'était Georges Léonard Sagnot et Régis Audrius. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Restez à l'écoute de VO Afrique pour un rappel des titres de l'actualité avec Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
VOA Afrique, les infos.